Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
De retour comme chaque mardi avec Jérôme Debardis, bonjour.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Et deuxième partie cette semaine de la partie sur AZF. La première partie est disponible en podcast sur le site internet de Radio Présence, www.radioprésence.com. Et aujourd'hui, deuxième partie sur le après, sur les conséquences de cette catastrophe de l'usine AZF. Du coup, cet après, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après AZF.
Oui, alors, très rapidement, comme je l'ai laissé entendre la dernière fois, le podcast dernier, très rapidement, les assureurs ont bien vu que s'appliquerait l'article 1384 du Code civil, que je rappelle comme ça, et on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. À partir du moment où les choses étaient inexplicables et inexpliquées, il y avait une chose qui était certaine, c'était que le hangar 221 avait explosé et qu'il était sous la garde ou appartenant à la grande paroisse filiale de Total. Par conséquent, le recours contre Total devait être très évident, sauf s'ils arrivaient à prouver le fait d'un tiers.
Mais c'est un fait, l'hangar était à eux, donc.
Pardon.
Les faits sont là. C'était un fait.
Oui, c'était un fait. Ça avait explosé. Donc l'article 1384 du Code civil s'appliquait. Ce qui fait donc que les assureurs ont rapidement compris qu'ils auraient un recours rapide. Ils s'étaient mis en contact, bien entendu, avec Total, qui s'est montré dans cette affaire tout à fait coopératif.
Est-ce qu'il y avait une autre solution de ne pas être coopératif? Non.
Oui, si, on peut toujours, on peut toujours contester sa responsabilité. Au départ, quand même, il y a eu pas mal de conjectures sur le sujet, hein, puisque des gens avaient vu des éclairs, d'autres avaient vu des phénomènes électriques. On a eu des hommes politiques qui ont même indiqué qu'ils avaient vu un missile.
Ah oui.
On a un peu tout eu. Mais au bout de 3-4 jours, d'ailleurs, le procureur a mis fin à toutes les conjectures, ou en tout cas a tenté de mettre fin à toutes les conjectures, puisqu'au bout de 3 jours, il a dit « c'est très probablement un accident ».
Justement, cet accident, il est classé dans quelle catégorie? Non pas dans les incendies, pas dans les catastrophes.
C'est une catastrophe technologique.
Et alors, qu'est-ce que c'est une catastrophe technologique?
Alors voilà, une catastrophe technologique,
eh bien, vous en dire deux mots.
C'est décrit maintenant dans le code des assurances, ça va déclencher quand il y a une catastrophe technologique, ça va déclencher un processus d'indemnisation tout à fait comparable à celui des catastrophes naturelles. Voilà, c'est une loi de 2003, dite loi Bachelot, qui a été promulguée à la suite de l'explosion d'AZF, donc qui a profondément changé l'appréhension qu'on pouvait avoir des phénomènes et des catastrophes technologiques. Je ne crois pas que ce fonds, puisque c'est quelques centimes d'euros par contrat d'habitation que nous versons tous, je ne crois pas que ce fonds ait eu à jouer. On en a parlé pour Lubrizol, mais en fait, ça n'a pas joué parce qu'il n'y a pas eu de dommages considérables, considérés comme une catastrophe technologique.
Une catastrophe technologique, si on peut le résumer, c'est un accident non nucléaire.
Voilà, quelque sorte, oui, non nucléaire. Oui.
Cette partie de catastrophe technologique, on en a souvent parlé lors de ces chroniques, est-ce qu'elle est comprise dans une assurance qu'on a déjà, une assurance habitation?
Oui, elle est dans ces quelques centimes, habitation. Ces fameux quelques centimes servent à prévoir les modes d'indemnisation, les méthodes. Donc c'est des articles assez longs. Hein. C'est tout à fait, mais alors vraiment tout à fait comparable au régime des catastrophes naturelles.
Donc il y a eu un avant et un après AZF avec des lois qui ont été prises. Est-ce que ça a aidé de ce problème?
Écoutez, on espère que ça aidera si un jour, par malheur, quelque chose de comparable se produisait. Ça arrivera peut-être un jour. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu à jouer. Je voudrais revenir sur le sujet politique, parce que pour les assureurs aussi, c'est important de voir quelle image ils ont lors de ce type de dommage. Et l'image de l'assureur est malheureusement, moi je dis malheureusement parce que je pense que ça n'est pas mérité, est en règle générale assez mauvaise. Alors, nous avons fait procéder à des sondages et on a constaté quand même que 92% d'ailleurs à l'époque des gens assurés chez les agents généraux, on va dire comme ça, ont été satisfaits de la manière dont ont été traités leurs dossiers. En revanche, les politiques ont été durs, ont eu la dent dure, parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion à la mairie de Toulouse où il y avait un certain nombre de responsables politiques, d'experts, d'avocats, de médecins et d'assureurs, et ces réunions dans lesquelles on expliquait le sujet. On était au mois de novembre, il n'y avait toujours pas de fenêtres.
Oui, parce qu'on le répète, il y a eu une explosion, donc plus de fenêtres dans les habitations.
Donc plus de fenêtres, absolument.
Et c'était aux portes de l'hiver.
Aux portes de l'hiver. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il n'y a plus en Europe. En Europe, deux fenêtres, elles sont toutes en cours de fabrication, mais de fenêtres livrables, il n'y en a plus parce que on a mangé tout le quota avec le début de l'explosion AZF. Tout le monde est d'accord sur le constat. Tout le monde est d'accord sur le constat. Le lendemain même, à l'Assemblée nationale, un politique dit « Messieurs les assureurs, je vous supplie à genoux de jouer le jeu ». Voilà, ça c'était une manière de détourner le sujet, et c'est les assureurs, la profession, qui a été gravement entachée à l'époque par cette remarque ou cet appel qui avait fait du bruit quand même. « Je vous supplie à genoux ».
Bon. Oui, forcément, voilà. C'est une déclaration forte après.
Et pourtant, à la fin de tout ça, à l'époque, Monsieur Douste-Blazy, maire de Toulouse, a remis la médaille d'or de la mairie de Toulouse aux agents généraux d'assurance, qui sont le seul canal de distribution qui a obtenu cette récompense ou cette distinction pour son action lors d'AZF.
Vous nous l'avez dit, une catastrophe qui a du coup accouché d'une loi. Est-ce que depuis cette catastrophe d'AZF, on le rappelle, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans maintenant, ouais, à peine plus de 21 ans, est-ce qu'il y a eu un renforcement au niveau de la dureté des assurances sur les inspections des installations classées dangereuses?
Alors,
ou
oui,
la réglementation?
Oui, bien sûr. Alors ce renforcement, et c'est surtout un renforcement dû aux réactions des autorités administratives et politiques. Hein. Les assureurs, eux, dans les contrôles qu'ils font terriblement attention aux ICPE, donc aux installations classées pour l'environnement, aux Céveso, tout ça. Est-ce que ça reste assurable? Oui, ça reste assurable, mais avec des précautions qui sont considérables.
Donc pour un événement qui n'avait jamais eu lieu, l'assurance a su s'adapter et aujourd'hui est prête à malheureusement faire face à un autre cas comme ça?
Écoutez, on pense que les fonds seront là. Voilà. Et c'est vrai que pour AZF, on a encore une fois eu la chance d'avoir un responsable qui était parfaitement solvable et qui a bien accepté de jouer le jeu.
Donc on en revient à ce rôle de l'assurance au sein des gens.
Oui, parce que voilà. Et puis même les gens non assurés
sont venus vous voir au final.
Oui, on les a conseillés de façon à ce qu'ils obtiennent le même recours qu'une compagnie d'assurance qui aurait payé son assuré. Donc en fait tout ça s'est quand même pas si mal passé que ça. Bon, c'est dramatique bien sûr, hein, 31 morts, tous ces blessés, tout ça, et puis ça reste dans la chair des Toulousains encore aujourd'hui. Hein.
On en parle encore aujourd'hui. Oui.
Voilà, mais je pense que l'assureur a eu son rôle à jouer et qu'il n'a pas si mal joué que ça.
Est-ce que pour clôturer, est-ce qu'on peut faire un bilan de cette catastrophe pour l'assurance, pour ce dispositif ?
Alors pour ce dispositif, on a vu encore une fois la solidarité dans la profession. On a vu la difficulté qu'ont eu certains acteurs de l'assurance, notamment la Fédération française des assureurs, pour s'inscrire dans un schéma dans lequel ils n'avaient pas les mains totalement libres. Ça, c'est quand même, ça a été pour moi une grande leçon, je peux vous le dire. Voilà. Et puis, bon, le bilan, c'est 2 milliards d'euros aussi qui ont été versés par Total, qui le pouvait, hein, puisqu'à l'époque, oui, ça représentait, je crois, 20% de son bénéfice semestriel. Il faut ramener les choses à leur juste titre.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Debardis, pour cette éclaircissement sur cette catastrophe qui a touché nombreux de Toulousains. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.